des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, était de passage à la grande messe du dimanche où il a tenu des propos assez surprenants. Il a dit que, parlant de la liberté d'expression, notre droit s'arrête là où la blessure de l'autre commence. Des propos qui ont interloqué M. Jonathan Paquette, professeur titulaire de la chaire de recherche en francophonie, hein, francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel de l'Université d'Ottawa. Et M. Paquette a écrit un fort bon texte, une lettre ouverte, quelle liberté d'expression pour nos musées, nos bibliothèques et nos archives qu'on peut lire dans la presse plus. Bonjour, M. Paquette.
Bonjour, bon matin.
Ben, bonjour. Les propos de M. Guilbeault semblent vous avoir inquiété. Pourquoi?
Oui, ben alors, voyez, c'était anodin voir le ministre comme ça parler, une discussion informelle. On comprend qu'il voulait se rapprocher de la douleur d'un de ses interlocuteurs, de vouloir se sensibiliser, tout ça. On comprend que quand quelqu'un parle de sa douleur, on veut généralement réagir, rassurer, tout ça. Mais voyez, le ministre du patrimoine a une responsabilité. C'est lui qui est porteur des dossiers de la culture. Il y a sous son ministère, sous la tutelle de son ministère, un ensemble d'organismes culturelles qui, certes, sont à distance de bras, comme on dit, arms length, sont à distance du pouvoir politique, mais qui, dans les faits, ont des administrateurs et des conseils d'administration qui sont constamment dans une lecture de l'environnement, y compris de l'environnement politique. Vous savez, quand on fait une planification stratégique, on lit l'environnement, force, faiblesse, opportunité, tout ça, donc on est dans cette lecture-là. Et il y a au niveau des administrateurs beaucoup de frilosité sur certaines questions sensibles. Donc, le ministre, son intervention, elle étonne et puis elle pose des limites à la liberté d'expression. Elle réitère, en fait, aussi les propos à la manière de Justin Trudeau dans sa première déclaration sur les caricatures, si vous vous rappelez. Donc, une certaine limite. Mais de manière plus importante, ce qui est encore plus préoccupant dans son intervention, je ne sais pas si vous vous rappelez, du scandale du Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Scandale odieux.
Et c'était quoi, au juste?
Alors, ce scandale, pour faire un petit rappel, donc on a un musée fédéral des droits de la personne à Winnipeg, et pendant des années, donc un musée qui parle de diversité, et pendant des années, on a demandé au personnel d'exposition, à la demande de groupes religieux et parfois même dans des cérémonies officielles accueillant des diplomates étrangers, que vous savez, il y a des pays où il y a des lois homophobes. Donc, dans ces occasions-là, on a demandé au personnel de censurer les expositions sur les droits des gays et lesbiennes. Placez-vous devant les photos, placez-vous devant les panneaux. Ça a été un scandale énorme. Je vous dirais que c'est probablement un des pires scandales de l'histoire des musées au Canada, et ça s'est déroulé, ça, ces dernières années. Le scandale a éclaté cette année, et le ministre est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais non, il ne faut pas censurer. Les musées ne devraient pas s'auto-censurer. Et la censure dont on fait état dans ce cas-ci, pour l'essentiel, c'est d'avoir posé une limite à la liberté d'expression, à l'autonomie, si vous voulez, du musée, dans sa capacité à parler des thèmes de droits gays et lesbiens, quand devant un public religieux qui était choqué. Puis je dois dire, ça me fait beaucoup de peine, moi, en tant que personne, la communauté gay, de dire, bon, ben, il y a des gens qui n'acceptent pas mon identité, puis qui sont choqués, mais ça n'enlève rien au fait que ces gens-là étaient sous le choc. Ils avaient une douleur. Donc, est-ce que cette douleur-là justifie la censure? comprenez ce que je veux
ben
dire?
Ben oui, non, tout à fait. Écoutez, M. Paquette, je suis allé voir, j'en parlais un peu plus tôt, je suis allé voir au Musée des Beaux-Arts de Montréal une exposition du photographe américain Robert Mapplethorpe, que vous connaissez certainement. Oui. Bon, il y a des photos très choquantes. Là, on voyait un homme qui était à quatre pattes avec un fouet qui était rentré dans son anus et tout ça. Là. Bon, des photos sado-maso et tout ça. Au Musée des Beaux-Arts, il y a des gens qui auraient pu être choqués par ces photos-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut censurer l'exposition de ce photographe-là qui était majeur?
Ben, c'est la question qu'on se pose. Je pense que l'intervention du ministre, à tout le monde en parle, mérite certaines clarifications. On n'a pas la même réponse que six mois. Là, on dit, oui, écoutez, il y a une certaine limite à la liberté. Quand ça choque, c'est là la limite. Alors que c'est du devoir de certaines institutions dans la société,
ben oui.
Les musées, les bibliothèques, les archives, les universités, d'être ces espaces-là où on décortique, où on met en débat, où on analyse ces sujets tendus. Donc, c'est plutôt irresponsable, à mon avis.
Bien, surtout qu'on a une culture subventionnée. Sans subvention, notre culture n'existe pas. Donc, là, ces subventions-là sont accordées par des organismes, que ce soit comme Téléfilm, SODEC, etc. Et là, ben ils ont entendu le message du ministre, eux autres. Ils ont entendu que le ministre dise, ben là, il faut tenir compte des sensibilités des gens. Et moi, ma crainte, et comme je pense que vous la partagez, c'est que le message a été compris par ces gens-là, et en disant, ben là, il va falloir maintenant tenir compte des sensibilités des uns et des autres lorsqu'on va donner notre aval à certains projets artistiques.
Ouh. Absolument. Si on est le Musée des Beaux-Arts du Canada, par exemple, on reçoit, disons, si on fait une analyse là, des budgets ces dernières années, environ 73 à 80 % de notre budget d'un transfert fédéral. Donc, ce que le ministre pense, même s'il fait à distance de bras, même s'il fait à distance du politique, ça compte. Que le ministre pense, ça compte à tel point que, je veux dire, son intervention du juin dernier où il disait qu'il ne faut pas s'auto-censurer, ça démontre à quel point les paroles du ministre, même pour les organismes qui sont à une certaine distance du politique, comptent beaucoup. Donc,
ben oui.
Ce qu'il a fait dimanche dernier, c'est une bourde incroyable.
Ben oui, c'est pas anodin. Et M. Paquette, rien qu'une anecdote, j'adore Leonard Cohen, c'est une de mes idoles. Et bon, il a écrit des romans, Leonard Cohen, et je lisais un de ses romans, et il parle il essayait de courtiser des jeunes québécoises francophones, et il disait, ben, si on l'aide, elles ont toutes des dentiers. Il écrivait ça dans son livre. C'était un roman qui se passe dans les années 70-60. On sait qu'à l'époque, chez les Canadiens français, ils se faisaient enlever leurs dents à 16 ans. Bon. Et est-ce que je vais dire, moi, en tant que Québécois francophone, je suis heurté, offensé par ce livre-là. On devrait le retirer de toutes les bibliothèques. Voyons.
Voyez, si on va aujourd'hui dans l'exposition permanente sur l'art canadien au Musée canadien des Beaux-Arts, on va voir des toiles de Krieger. Qui sont fondés sur des stéréotypes racistes. L'habitant, donc le Canadien français un peu bourru avec un nez rouge d'alcoolique qui s'utilise de façon peu gracieuse. C'est ça qu'on a. On le sait, et on le sait très bien. Et pourtant, c'est pas moi qui vais militer pour l'OT. Non, en fait, on doit en rendre compte. Il fait partie de l'histoire de l'art.
Ben, oui.
Il fait partie de cette longue histoire du racisme francophone. Il a sa place au musée. Et donc, c'est un espace où on doit le voir. On doit pas le cacher, en fait.
Ben oui, tout à fait. Comme Mordecai Richler est un très grand écrivain, même si sa vision des Québécois francophones est parfois insultante. Donc, est-ce que vous rappelez, c'est que là, à la grande messe du dimanche, Stephen Guilbeault, il était pas là en tant que citoyen, il était là en tant que ministre. Et il aurait dû faire attention à ses paroles parce que tous les gens dans le milieu de la culture ont entendu son message.
Oui, absolument. Et non seulement ça, le paradoxe actuel. Le paradoxe, c'est que dans les luttes contre la discrimination, c'est là où on retrouve le plus de censure. Rappelez-vous les cas récents dans les universités. On est dans des démarches antiracistes. Des femmes qui sont militantes antiracistes, qui font les meilleures pratiques pédagogiques dans leurs cours avec des trigger warnings, qui sont là et s'exposent finalement ensuite. Donc, ils sont dans une démarche antiraciste et ensuite, elles sont censurées. C'est la même chose pour les musées. La démarche anti-homophobe a été censurée pendant des années dans l'espace du musée. Et puis, récemment, dans le monde de l'art, il y a eu un des cas les plus importants depuis ces dernières années de censure, celle de l'exposition qu'on avait planifiée pour une rétrospective de Philip Dustin, qui est un artiste graphique, peintre, artiste graphique, qui est né à Montréal, mais qui a fait surtout sa carrière aux États-Unis. Et on a censuré l'exposition. On a dit, oh non, c'est trop tôt, on peut pas. Et c'est un artiste antiraciste. parce que certaines de ses toiles antiracistes pourraient choquer. Alors, c'est là où on
non, là, c'est,
Oui, absolument.
Non, là, c'est ridicule. C'est que la gauche est devenue maintenant victime de sa propre croisade, on dirait. Là. Donc, comme on dit, la révolution dévore toujours ses enfants. Je conseille aux gens de lire votre texte sur la presse plus. Quelle liberté d'expression pour nos musées, nos bibliothèques et nos archives. Un texte courageux qui pose d'excellentes questions. Merci beaucoup, M. Jonathan Paquette.
Merci, au plaisir.
Merci. Tu riais quand je parlais de mon exposition de Robert Mapplethorpe.
On est allé voir ça avec Mme Dutrisac.
Ah, tu l'as vu, toi aussi? Ouais, ben c'était le chum de Patti Smith, ce gars-là.
Oui, Patti Smith.
Et qui est mort du sida, mais qui faisait des photos sadomaso, il faut le dire. Là. Et puis, qui n'a pas mis un fouet dans son anus?
Au chalet.
Alors, de quoi tu vas nous parler?
Ah, mais toutes ces petites polices, là. Ah. Je pense que ça choque plus notre génération, Richard.
Ben oui.
Parce qu'on a vu, le combat pour avoir accès à la liberté d'expression. Tu sais, qui était pas permise, là. Qui était rabrouée, mais carrée. Tu sais, des journaux comme Voir, là, quand c'est arrivé, ça brassait ce qui était...
On donnait des coupines dans la porte, puis là, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est refermer la porte.
Ouais.
Qu'on a ouverte.
Ouais.
À coups de pied.
Ouais. Puis sonne même pas à la porte. Cogne même pas à la porte. Rien. Pointe-toi même pas à la face à la porte. Tantôt, je vais parler au docteur André H. Dandavino, coroner. Tu te souviens, on a fait une table ronde sur les coronaires il y a deux ans.
Bon.
Il participe à la série Coroner, la voix des victimes. C'est présenté aujourd'hui sur Club Illico. Je pense que ça va être intéressant. On va parler de la job de coroner, ce qui les touche aussi. Là. Puis lui, il y avait des chevaux de bataille comme l'alcool au volant. On va parler au docteur Dandavino.
Ils font des rapports, puis ils sont comme tablettés quelque part.
Celui sur la 40, là. Tu sais, les carambolages à chaque hiver.
Oui.
Ah, il y a eu carambolage parce que la vision était... Mais planter des arbres. Oui. Et là, il y a un coroner qui a dit ça en 2000... C'est-tu en 2006? Quelque chose de même, là. En 2006, l'avocat René Duval scandalisé que les décès d'un père et de sa fille en 2006 n'aient servi à rien, alors qu'un nouveau carambolage monstre a eu lieu au même endroit sur l'autoroute 40 en janvier 2019. 13 ans plus tard. Fait qu'on était, encore assis sur nos mains. Puis,
En Estrie, quand tu t'en vas là, à Frélixburg, à Frélixburg, t'as une nouvelle autoroute là, qu'ils ont construite il y a quelques années, puis t'as un long stretch où c'est vraiment sur une plaine.
Ouais.
Et là, il y a aucun arbre. Et moi, dire là, quand il vente, t'as toute la neige d'en face, hyper dangereux.
Serre les fesses puis tiens ton fouet.
Et ta voix.
Il va pogner au vent. Alors ça, c'est toujours pas réglé. Et le rapport du coroner Duval disait l'apparition d'un voile blanc aurait entraîné une visibilité soudainement nulle en raison de l'absence d'arbres sur un tronçon d'environ 500 mètres. Il y a à la prairie, il y a une courbe à la prairie là où il y a toujours des accidents.
Ah ouais.
Et là, je pense qu'on va s'en occuper. Finalement.
Okay. Bon.
Mais il y a des lieux où, il me semble, mettez des arbres. À 11h, on aura Geneviève Landry, parce que c'est aujourd'hui la journée des hommes, là, tu sais, bien-être des hommes. Puis elle travaille, elle est directrice générale d'Entraide pour Hommes, présidente du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Mais tu sais, là, on va faire la part des choses entre les hommes et les agresseurs. Les agresseurs qui prennent leur responsabilité ou non. Puis on n'a pas l'apologie, les prétextes, les excuses, elle m'écoutait pas. Tu sais, bon, tout ça, là, ça suffit. Puis on va lui parler à 11h et à midi.
C'est spécial que ce soit une femme qui s'occupe d'un groupe d'entraide pour hommes.
Ça fait longtemps que Geneviève fait ça.
Est-ce que ça serait aussi accepté? C'est un homme, mettons, qui s'occupe d'un centre de femmes battues?
Je sais pas.
Je sais pas.
Peut-être. Mais tu te souviens, encore là, au Franc-Tireur, il y a plusieurs années, on avait fait une table ronde sur les hommes. Geneviève y avait participé. Et à midi, on aura le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost. Ce soir, à 17h, on va savoir ce qui arrive avec l'école. Puis, entre autres, moi, je veux savoir quand est-ce que les directions d'école vont dire aux parents, là, quand on va revenir à la normale, et comme vous l'avez fait dans le passé, retirer les garçons le vendredi pour qu'ils aillent dans un tournoi de hockey, c'est pas un bon message envoyé. Mm-hmm. Ça veut dire que le hockey est plus important que les écoles. Et là, tout à coup, manquer des journées d'école en temps de pandémie, on fait une crise. Mais là, branchez-vous. C'est important ou c'est pas important?
Ben, c'est vrai. On va t'écouter.
Ben, ce sera
gratuitement. Et moi, j'aimerais remercier les gens qui nous écoutent. Et je veux vous dire, oui, on a eu des problèmes techniques. Hein, ceux qui nous ont écoutés pendant l'émission, vous l'avez bien entendu. C'est hors de notre contrôle. Ça va être réglé dans les prochaines minutes. Merci d'avoir été.